Pastoureaux et pastourelles, bien le bonjour. Vous avez longuement voyagé, n'est-ce pas? Je vous attendais avec impatience. Vite, prenez place et mettez-vous à l'aise. Je suis votre hôte, Gabriel Côté. Diplômé en études médiévales et en archivistique, j'aime partager ma passion au passant. Je vous propose aujourd'hui de faire un saut dans le temps, de revoir le Moyen-Âge à travers une loupe moderne, une loupe plus féministe. Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis.
Pastourelles et pastoureaux, bien le bonjour, mes chers amis, et bienvenue à l'épisode 9 de la saison 2 de Ad Medievum Aeternum. C'est votre hôte, Gabriel, et comme toujours, mes chers amis, quel plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Enfin, pardonnez-moi du petit retard, un épisode qui a été repoussé d'une semaine. Je suis très occupé ces temps-ci avec le travail, en fait, mes plusieurs ouvrages. Donc, j'ai un peu de la boue dans le toupette, pour reprendre l'expression québécoise ces temps-ci. Mais je suis vraiment très content de vous présenter cet épisode aujourd'hui. Recommandation bibliographique. C'est un épisode spécial parce que c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'a demandé. Il y a quelqu'un qui me rejoint par les médias sociaux et m'a demandé « Gabriel, est-ce que tu pourrais nous faire un épisode où tu nous présentes, tu nous recommandes des lectures à faire sur le Moyen-Âge? » Et bien évidemment, j'ai accepté parce que c'est l'objectif hein, de Ad Medievum Aeternum, c'est de faire de vous des médiévistes, des passionnés du Moyen-Âge, et rien de mieux que des bonnes lectures pour justement s'édifier sur l'histoire médiévale. Et mes chers amis, il y a quelque chose que, en fait, j'ai très hâte de vous en parler parce que bon, quand on est étudiant en histoire, des livres, on en accumule, quand on est archiviste, des livres, on en accumule encore plus. Donc, c'est tout le temps mes petits trésors, là, mes livres, donc j'ai une certaine excitation à venir vous partager ça aujourd'hui. Mais surtout, c'est que, vous savez, je le répète souvent dans mes épisodes, moi, je suis un passionné, j'ai un baccalauréat, une licence pour ceux qui sont en France, en histoire médiévale et en archivistique. Donc, je ne suis pas un expert. Mais ces gens-là, dans les livres, eux, ils ont des doctorats, ils ont des maîtrises, c'est des véritables experts sur le Moyen-Âge, et ça va me faire plaisir de vous donner des sources vraiment plus édifiantes que ce très humble podcast. Alors, mes chers amis, sans plus attendre, commençons avec le tout premier. Ma première recommandation serait « Profession médiéviste » de Francis Gingras. J'en profite pour vous dire que tous les livres vont être dans la description en bas de l'épisode. Donc, inquiétez-vous pas, là, vous n'avez pas à tout retenir les noms par cœur, je vais tous les inscrire. Mais « Profession médiéviste », pardonnez-moi, de Francis Gingras, ce que j'adore avec ce livre-là, c'est que c'est extrêmement court. C'est un livre de 70 pages, il m'a coûté 10$ canadiens, fait que c'est quoi ça, 6-7€ peut-être, probablement moins. C'est super abordable, c'est tout petit, ça se lit dans un trajet de train, dans un trajet d'autobus, et ça donne un bon portrait général de ce que c'est un médiéviste. Vous vous en souvenez, on en a parlé un peu, puis d'ailleurs j'ai cité cet ouvrage-là dans l'épisode, qu'est-ce que c'est les études, pourquoi faire ces études médiévales dans la saison 1, et ce petit livret-là, dans le fond, résume tous les aspects qu'un médiéviste doit travailler avec. Comment la disciplinarité, bon, déjà mieux, pardonnez-moi, qu'un médiéviste doit en fait se munir hein, d'aller chercher non seulement l'histoire médiévale, mais l'archéologie médiévale, l'histoire des langues mortes, hein, d'apprendre son latin, de faire son ancien français, de faire son norrois, d'aller chercher les langues. En fait, la langue qui était parlée par les gens qui ont vécu le Moyen-Âge, d'aller chercher justement la science héraldique, d'aller chercher, j'ai parlé de l'archéologie, l'histoire de l'art, de vraiment aller dans tous les domaines qui touchent le Moyen-Âge pour essayer d'avoir cette vue pluridisciplinaire de cette époque absolument fascinante. En plus, Francis Gingras, c'est un professeur de l'Université de Montréal. Il a déjà été le directeur du département d'études médiévales, de mémoire. Et là, présentement, il est au département de littérature de langue française. C'est lui, d'ailleurs, qui donnait, entre autres, les cours sur l'histoire de la langue française. Et on passait, justement, à travers le Moyen-Âge. Donc, un cours très intéressant. Donc, je vous le recommande, c'est pas cher. Et si vous voulez découvrir c'est quoi, mettons, vous êtes en histoire, là, vous vous dites « Ah, est-ce que j'ai envie d'être un médiéviste? » Eh bien, ce petit livret-là là, va vous donner une bonne idée de ce qu'il faut faire comme médiéviste et c'est quoi la réalité d'un médiéviste. Donc, forte recommandation pour ça. Maintenant, pastourez les pastoureaux. Béni sur les le Moyen-Âge. J'en ai beaucoup, fait que je vais vous en présenter quelques-uns. Je pense que celui que je vais vous présenter en premier lieu, ça va être les 100 fiches d'histoire du Moyen-Âge de Stéphane Musel. Stéphane Musel, vous l'avez sûrement vu dans la description de mes vidéos, mais c'est un auteur que je cite régulièrement. Pourquoi? Parce que son ouvrage est ridiculement pratique. Dans le fond, la façon que le livre est construit, c'est 100 fiches d'histoire. Je vais utiliser le terme en anglais, je m'en excuse, des bullet points. Vraiment, là, vous avez 3 pages maintenant sur les croisades. Vous avez quelques bullet points, quelques points sur lesquels l'auteur a écrit quelques phrases qui résument en gros ce qui s'est passé. Fait que si vous voulez vraiment juste avoir une idée générale du Moyen-Âge, en fait, je devrais peut-être pas vous dire ça. C'est peut-être pas fait en réalité pour quelqu'un qui a pas de connaissances sur le Moyen-Âge, parce que c'est très court, ça donne très peu d'informations, ça dessine dans le fond un portrait général d'un mouvement excessivement souvent très compliqué. Mais pour quelqu'un en fait qui connaît déjà l'histoire du Moyen-Âge un minimum, ce qui est génial avec ça et de la façon que je m'en sers, c'est que si je fais un épisode par exemple sur, comme présentement je suis en train de préparer l'épisode sur le Saint-Empire romain germanique, il y a de l'information dans ce livre-là. Et ce qui est génial, c'est que je l'ouvre et en quelques pages, j'ai grosso modo les périodes, les personnages importants, qu'est-ce qui s'est passé, et ça me permet d'approfondir mes recherches, justement, d'aller chercher, OK, par exemple, la bataille de l'Eschwed, je prends un exemple, on en parle, bon, OK, génial, je vais aller me renseigner un peu plus sur cette bataille-là, OK, tel roi, bon, je vais aller me renseigner un peu sur lui, OK, il y a eu tel conflit avec tel, par exemple, avec le monde franc, bon, on va aller chercher, justement, les belligérants, qui c'était quel roi en France pendant ce temps-là, donc, ça m'aide, à, justement, à aller chercher plus loin, et c'est excellent pour les aides-mémoire, parce que ça, c'est quelque chose, pour ceux qui sont en train de rentrer en histoire, que ça soit, là en France, je pense que c'est la fac, au Québec, que ça soit le cégep, l'université, là, vous allez tout le temps entendre les gens vous dire que vous devez vous souvenir de tout. C'est un mensonge. OK, c'est le plus gros mensonge de l'humanité. La mémoire humaine ne peut pas se souvenir de l'entièreté de l'histoire. OK, il y a trop de choses qui s'est passé, vous allez en oublier des bouts, c'est tout à fait normal. Mais vous allez vous le faire reprocher. Très souvent, il y a des gens, moi je me faisais poser la question, « Ah, c'est quand la révocation du permis de coureur des bois? » Je m'en souviens plus. Je pense, sans joke, je pense que c'est 1742, mais je suis pas sûr. Donc, c'est probablement n'importe quoi. Je vous dis, mais il me semble que j'ai 1742 dans la tête, mais en tout cas, comme là, vous voyez, je m'en souviens plus. C'est normal. Vous pourrez pas vous souvenir de l'entièreté des dates. Vous pourrez pas vous souvenir de l'entièreté des personnages. Vous ne pouvez pas connaître toute l'histoire de l'humanité de mémoire, c'est tout simplement impossible. C'est pourquoi que lorsque vous allez produire des travaux à l'université, ça va être tout le temps basé sur une bibliographie et vous allez lire. Si vous pensez qu'en histoire on sait absolument rien, on lit sans arrêt. C'est vraiment de lire, de lire, de lire, de lire, de lire, de lire et de se rendre compte que plus on lit sur le sujet, ben en fait ça c'est pas juste en histoire, là, c'est comme n'importe quoi, plus on se renseigne sur un sujet, plus on découvre qu'on était inculte et qu'il nous en reste davantage à apprendre. Fait que les 100 fiches d'histoire du Moyen-Âge de Stéphane Musel, pardonnez-moi, c'était la 2e édition, pourtant quand même de le mentionner, hein. C'est génial, c'est plein de petites fiches sur des petites périodes historiques, ben sur, pas des petites périodes historiques, sur des grandes périodes historiques, hein, quand même, par exemple, on voit un peu c'est quoi le haut Moyen-Âge, bas Moyen-Âge, le moyen Moyen-Âge, les croisades, les invasions, hein, justement, ça m'a aidé, évidemment, dans le monde des Hongrois, surtout, parce que je connaissais moins le monde des Hongrois, les Magyars, hein, l'épisode qu'on avait fait dans la saison 1. Donc, vraiment, je vous le recommande fortement si vous avez déjà une bonne connaissance de l'histoire. Et ça vous permet vraiment d'avoir un petit, justement, ça vous rafraîchit l'esprit. Donc ça, ce livre-là, c'est mon, excusez le terme en anglais, là, mais mon go-to, c'est mon chéri. Il est là dans tous mes épisodes, il est près de moi. Ça me donne tout le temps un bon résumé d'une période historique, des petits aspects à se souvenir et où aller approfondir mes recherches dans le cas nécessaire. Et en passant, c'est toujours dans le cas nécessaire. Stéphane Musel, là, c'est un excellent ouvrage, mais c'est jamais suffisant. Il n'y a pas un livre en histoire qui est suffisant. Là, les bibliographies, quand vous faites ça à l'université, là, c'est des pages de bibliographie que vous faites, vous ne donnez pas juste un livre. Là. Mais Stéphane Musel, là, c'est vraiment des informations pertinentes, mais sommaires. Donc, on garde ça en tête. Mais là, maintenant, vous allez me dire, bon, Gabriel, la majorité d'entre nous sommes pas des fous, on n'est pas allé en études médiévales, donc peux-tu nous donner des recommandations pour quelqu'un qui a jamais lu sur le Moyen-Âge, qui veut s'y intéresser? Absolument, pastourez les pastoureaux. Mes chers amis, Ici, je ne vais pas vous recommander un livre en particulier, mais je vais vous recommander un auteur, et ce dernier est Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, c'est probablement la porte d'entrée la plus simple pour apprendre l'histoire du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que Jacques Le Goff, premièrement, moi j'ai commencé mon Moyen-Âge avec lui comme beaucoup. Il est recommandé dans tous les cours d'introduction au Moyen-Âge que moi je l'ai fait dans un... J'ai fait un cours d'histoire sur le Moyen-Âge, mais c'était pas le cours d'introduction, c'était un autre, à l'UQAM, puis sinon j'ai fait tous mes autres cours à l'UDM parce que j'ai transféré là pour faire études médiévales. Et dans les deux cas, Jacques Le Goff était mentionné, c'est vraiment une référence. Et ce qui est génial en fait avec ce dernier... c'est sa capacité à vulgariser l'information. Jacques Le Goff est capable de vous régurgiter le Moyen-Âge là en quelques phrases simples, vous comprenez tout, c'est intéressant, c'est à la fois très complet, mais c'est également très léger. Il y a vraiment une capacité de justement partager cette information-là, et surtout de rendre ça vraiment hyper intéressant pour vous donner une idée. J'ai un ouvrage chez moi présentement qui est un, dans le fond, ça, en fait je vais vous le sortir, donne-moi un instant, je l'ai pas sorti. Faut que j'enlève mes écouteurs, désolé tout le monde. Jacques Le Goff. Ah oui, voilà. Pardonnez-moi, ça se peut qu'il y ait ces petits moments où vous allez moins m'entendre parce que je vais aller chercher des livres. J'ai essayé de faire des piles sur mon bureau, mais il y a comme plus de place. Mais en tout cas, je reviens. Le Moyen-Âge et l'argent, Jacques Le Goff. Ça, c'est un livre que j'ai pas encore commencé. Malheureusement, je suis un peu en retard sur mes lectures, mais ça parle de justement la numismatique et comment l'argent est perçu au Moyen-Âge. C'est un sujet extrêmement pointu et je vais être très honnête avec vous, pardonnez-moi. Moi, la numismatique, donc l'étude des pièces de monnaie, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'allume dans la vie de tous les jours. Mais je sais que Jacques Le Goff, ben premièrement, je sais que ça part du Moyen-Âge, fait que c'est sûr que ça va m'intéresser, mais je sais que Jacques Le Goff va rendre ça intéressant. Fait que dès quand j'ai vu que ce dernier avait fait un ouvrage sur un sujet qui est peut-être moins ma tasse de thé, je savais que ça allait être intéressant. Je l'ai acheté, là, j'ai même pas lu l'arrière, je sais Jacques Le Goff, c'est une référence, aveuglément, je peux y faire confiance. Et vraiment, là, c'est un auteur que je recommande à n'importe qui a de la... En fait... pas juste à n'importe qui que j'ai jamais lu sur le Moyen-Âge, particulièrement aux gens qui n'aiment pas le Moyen-Âge. Jacques Le Goff fait des miracles là-dessus, pour de vrai, je vous le recommande vivement. Il a fait plein d'ouvrages, j'ai lu aussi « Hommes et femmes au Moyen-Âge », c'était super pertinent. C'était dans le même style que les 100 fiches d'histoire du Moyen-Âge. C'était quelques pages, puis un personnage. Donc on parlait par exemple d'un personnage, je sais pas moi, j'ai pas de nom qui me vient en tête, là, mettons Aliénor d'Aquitaine, on a quelques pages qui racontent son histoire. Donc c'est vraiment génial, ça vous permet de connaître les figures importantes du Moyen-Âge, il y avait Hildegard von Bingen entre autres, donc un ouvrage génial. Et surtout qui permet une introduction justement calme, simple et éclairée. Vraiment, là, on parle d'un livre là, pour quelqu'un qui connaît rien sur le Moyen-Âge ou qui déteste le Moyen-Âge. Jacques Le Goff, vous achetez ça dans le rayon sans regarder l'arrière, c'est une référence absolue. Maintenant, un autre ouvrage, ça c'était mon livre que j'ai acheté lors de mon cours d'introduction au Moyen-Âge. Ça s'appelle dans le fond « Le Moyen-Âge en Occident ». De Michel Ballard, de Jean-Philippe Genet et Michel Rouche. Ça, c'est un livre également qui m'accompagne dans presque tous mes épisodes. C'est un ouvrage très complet. Là. On parle de justement le 365 pages d'histoire sur le Moyen-Âge avec des cartes illustrées. On a un champ lexical qui nous explique sur certaines terminologies du Moyen-Âge. Vraiment, là, c'est super bien construit. C'est le niveau universitaire dans le sens où c'est fiable. C'est vraiment recommandé par les universités. Un ouvrage là-dessus pour vous planter et on couvre tout le Moyen-Âge avec ça. Également, ce que j'aime beaucoup avec ce livre-là, c'est que à la fin de chaque chapitre, il y a une bibliographie. Et cette bibliographie, ce qu'elle permet, ben, c'est d'aller approfondir vos lectures. Donc, si vous avez aimé le chapitre, vous savez que la bibliographie qui s'ensuit est à garder en tête. Comme ça, vous, justement, vous pouvez aller chercher d'autres ouvrages qui vont permettre de vous perfectionner en tant que médiéviste. Ce que j'aime aussi avec cet ouvrage-là, c'est, bon, je l'ai mentionné, il y a les cartes à la fin, mais il y a aussi une ligne du temps. Donc, si jamais, là, des fois, vous avez un doute, vous êtes comme « Ah, Charlemagne, c'est-tu après ou avant les croisades? » Bon, la petite ligne du temps est là, justement, pour vous aiguiller un peu de cadrer les événements dans un ordre chronologique toujours agréable. Donc, un ouvrage que je recommande, encore une fois, fortement. Maintenant, pour le prochain ouvrage, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est un autre livre d'introduction. C'est celui que j'ai eu pour mon cours d'introduction à l'archéologie médiévale. Donc, le titre, « Manuel d'archéologie médiévale et moderne ». Tout simple, c'est la deuxième édition de Joël Burnouf, Daniel Haribet-Derouin, Bruno Desachy, Florence Journeau et Anne Nissen-Jobert. Dans cette lecture, vous allez vraiment apprendre toutes les grandes bases, en fait, de l'archéologie médiévale. Pourquoi, en fait, c'est utile encore? Parce que c'est quelque chose qu'on voyait dans le cours, entre autres, qui était très pertinent. Mais on a beaucoup l'impression que l'archéologie, hein, c'est vraiment pour, bon, la préhistoire, l'Antiquité. Et vu que le Moyen-Âge tient encore debout très souvent, prenons Notre-Dame, il y a plein d'autres exemples, plein d'autres châteaux médiévaux qui sont encore présents aujourd'hui. On a longtemps cru que l'archéologie, ça concernait pas le Moyen-Âge, on l'avait devant les yeux. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses à aller chercher dans l'archéologie médiévale, entre autres, les Vikings. Je sais pas combien de fois je l'ai répété dans ce podcast, je sais pas combien de fois je vais le répéter dans ce podcast, probablement jusqu'à la fin de mes jours. Je sais pas combien de fois j'ai répété que Régis Boyer, le plus grand expert du monde des Vikings, justement mentionnait l'incroyable importance de l'archéologie médiévale pour comprendre le phénomène viking. Vraiment, là, l'archéologie médiévale, c'est bourré de surprises. J'en avais jamais fait avant, ben j'avais jamais suivi de cours d'archéologie. Donc, c'est une introduction, pardonnez-moi, un livre qui est fait justement pour quelqu'un qui a aucune base. Vraiment, là, si vous connaissez aucune base, vous êtes pas capable, vous êtes pas capable. Vous ne connaissez pas le carbone 14, comment ça fonctionne, quelles sont les étapes en archéologie, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça permet de découvrir au Moyen-Âge, quels sont les milieux de conservation, comment en fait on arrive à retrouver par exemple des structures en bois, hein, comment ça se fait que ça s'est pas décomposé, c'est quoi la situation géologique la plus propice à la préservation, je sais pas si c'est la bonne façon de le présenter, mais vraiment là, cet ouvrage-là, c'est un bonbon. Et c'est très très bien écrit aussi, dans le sens que c'est très clair. Oui, évidemment, hein, comme tout livre, il est divisé en chapitres. Ici, rien de révolutionnaire, un livre qui a des chapitres, c'est tout à fait normal. Mais vraiment, là, on a des gros titres en gras qui nous divisent le texte en plusieurs sujets par chapitre. Donc, vraiment, si vous cherchez une information particulière, ou si justement vous êtes plus intéressé peut-être par un aspect de l'archéologie, c'est très facile à retrouver dans l'ouvrage, c'est facile justement d'aller chercher l'information, et ça fait que c'est très digeste, le texte est très coupé, donc même si l'archéologie médiévale c'est un sujet, j'ai pas envie de vous dire lourd, c'est hyper intéressant, probablement un de mes cours préférés, mais quand même, l'archéologie c'est pas un petit domaine, là, ça demande une certaine connaissance, puis c'est... Il y a de la chair autour de l'os quand on veut commencer à s'intéresser à tous les enjeux que les archéologues doivent se frotter, mais c'est super digeste, c'est vraiment génial, donc je vous le recommande fortement. Maintenant, notre prochain ouvrage, c'est celui « Le Moyen-Âge en question » de Sylvain Guggenheim. Je pense que je le prononce tout croche son nom, mais vous regarderez la bibliographie en bas, ça va être moins compliqué. Cet ouvrage-là, dans le fond, je vous dirais que c'est un ouvrage complémentaire. Si vous voulez apprendre le Moyen-Âge de façon plus approfondie, je sais pas si c'est le meilleur ouvrage pour vous. Parce que ce dernier aborde à la fois des sujets très particuliers autant que des sujets très larges. Par exemple, on a une section de l'ouvrage qui est dédiée aux Vikings, donc le sujet, le chapitre, c'est les Vikings, et on en a un autre que c'est l'économie carolingienne. Quand même, il y a une différence de profondeur du sujet. Les Vikings, c'est très large. L'économie carolingienne, c'est beaucoup plus spécifique. Donc, cet ouvrage-là, je ne sais pas nécessairement si c'est vraiment un bon ouvrage pour commencer. Je ne le recommanderais pas, mais il est excessivement intéressant. Puis, il est super bien construit parce que, dans le fond, c'est le Moyen-Âge en question. Chaque chapitre est une question auquel l'auteur répond. Donc vraiment, c'est super clair. Par exemple, on a la relation des serfs au Moyen-Âge, les Vikings. Bon, là, je l'ai mentionné, il y avait l'économie carolingienne. C'est plein de petites questions sur certains événements historiques ou réalités du Moyen-Âge, comme la chevalerie, par exemple. Et ça vous donne une réponse en quelques pages, donc une dizaine de pages d'habitude. Donc, pour quelqu'un qui a déjà des connaissances sur le Moyen-Âge, il y a de l'information en profondeur à aller chercher. Et de plus, bon, mais même pour ceux qui n'auraient pas de connaissances sur le Moyen-Âge, eh bien, il y a quand même des sujets d'introduction. Mais quand même, personnellement, moi, je recommanderais peut-être d'avoir une petite base avant de se lancer dans cet ouvrage-là. Mais c'est super bien écrit, c'est génial, l'information est incroyablement pertinente. Donc, vraiment, un livre que je recommande également fortement. C'est un livre qui m'a aidé dans plusieurs travaux d'école, d'école d'université, parce que justement, c'est assez complet, là. Il y a plusieurs questions sur plusieurs époques au Moyen-Âge, sur certaines batailles, entre autres. Et ça, c'est génial parce que les livres d'histoire, oui, on parle des batailles, mais c'est dur de trouver un ouvrage qui décrit en détail un combat, surtout que c'était dur, en fait, parce qu'on n'a pas souvent les sources qui nous sont parvenues. Mais même d'avoir un peu plus d'informations que le nom de la bataille, c'est tout le temps plus agréable. Donc, ce livre-là, vraiment, si vous avez déjà des connaissances sur le Moyen-Âge, je vous le conseille. Prochain ouvrage. On parle de guerre, on va parler de guerre médiévale. Parce que sur les Passereaux rouges, j'ai deux ouvrages à vous recommander ici si vous vous intéressez, comme moi, à la guerre au Moyen-Âge. Il y en a, malheureusement, il y en a un que j'ai pas commencé à lire, c'est deux bonnes briques, mais c'est super complet, c'est absolument génial, et je vais quand même vous le recommander parce que j'ai entendu de très bons commentaires sur celui que j'ai pas lu, et je l'ai quand même feuilleté, et il y a une massive bibliographie en début qui nous donne justement plein de sources à aller chercher sur la guerre au Moyen-Âge, fait que j'ai très hâte de m'y attaquer. Je vais commencer avec celui que j'ai entamé, c'est History of the Heart of War, volume 3, Medieval Warfare, by Hans Delbruck, puis c'est traduit de Walter G. Renfro Jr. J'ai complètement massacré ces noms-là, je suis vraiment désolé. Cet ouvrage-là, c'est une brique, mais c'est foutrement complet. Pour vrai, là, de passer justement à savoir combien coûtaient les casques carolingiens, c'est vraiment un livre qui va vous amener à découvrir le Moyen-Âge militaire dans une profondeur et une proximité que j'ai jamais vu dans aucun autre ouvrage. Donc, il me reste l'autre à lire. Peut-être que l'autre va le détrôner. Mais en attendant, cet ouvrage est absolument incroyable. On a vraiment plongé là, dans les stratégies, les équipements, les réalités. On a, entre autres, un chapitre dédié entièrement à la bataille de l'Eschved. Je vous donne déjà un petit spoiler, mais on va en parler justement dans le Saint-Empire romain germanique dans l'épisode, je parle. On va y revenir parce que là, j'ai découvert plus d'informations dans cet ouvrage-là qui va me permettre d'en aborder un peu plus. Et c'est excessivement intéressant. Pour quelqu'un qui s'intéresse à la guerre, c'est très, très intéressant. Maintenant, le second, dans la même ligne de... Oh, oui, pardonnez-moi, un dernier aspect. L'ouvrage que je viens de vous mentionner, important de le savoir, il est en anglais. Donc, si vous n'êtes pas capable de lire l'anglais, je vous recommande vivement pas, parce que vous allez trouver le temps long. Mais le prochain que je vais vous recommander, lui est en français, c'est La guerre au Moyen-Âge de Philippe Contamine. Ou Contamine, peut-être, je le prononce probablement mal, encore une fois, je m'en excuse. Un livre, encore une fois, qui a l'air hyper intéressant. Celui-là, je ne l'ai pas entamé, mais la bibliographie de ce livre-là est monstrueuse. C'est quasiment le quart du livre qu'on a des références, justement, à des ouvrages. C'est absolument phénoménal. Les mots m'en manquent, j'ai tellement hâte de le commencer. Vraiment, là, vous avez le quart de... Attendez, je vais juste vous donner le nombre de pages. Vous bougez pas. Je suis tanné. Combien, mon Dieu, c'est ça? Un instant, ce sera pas bien long, parce que les pastoraux, ça, c'est les troisièmes suppléments de... Oh my God, OK. Au moins 100 pages de bibliographie facile, Pastourer les pastoureaux, là. Donc, vraiment, un livre que j'ai très hâte d'entamer. Il m'a été recommandé par un collègue qui m'avait justement dit que si la guerre au Moyen-Âge, c'est un autre ouvrage très complet. Du peu que j'ai feuilleté, ça ressemble également un peu à ce qu'on retrouve dans l'ouvrage, le Medieval Warfare. On se penche vraiment sur les équipements, sur les stratégies militaires et sur certaines batailles en particulier, dont on étudie justement les stratégies. C'est un ouvrage qui m'a été que j'ai quand même utilisé dans un de mes cours. J'ai quand même fait des petites lectures dedans parce que justement, c'était sur, si je me souviens bien, c'était sur les Carolingiens. Je m'en étais servi, mais je me souviens pas du tout. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a des cartes. C'est vraiment le très bien fait. Donc, je vous le recommande vivement. Maintenant, le prochain livre que je vais vous recommander est un livre audio. Je tombe en amour avec les livres audio, ça me permet justement de pouvoir écouter le Moyen-Âge partout où je vais. Celui que je vais vous recommander, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année passée, c'est De Magyar. Donc, c'est un ouvrage qui a été composé par... j'arrive pas à voir sur mon téléphone c'est quoi l'auteur de l'ouvrage. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais cet ouvrage qui est absolument génial, c'est que c'est la seule source solide que j'ai trouvée qui parlait des Magyars. J'ai pas trouvé un autre ouvrage qui parlait du monde de Magyar, de la naissance de l'Hongrie. Donc vraiment, ça a été ce livre-là, ça a été un apprentissage du début à la fin. C'était de la nouvelle information. Ça a été, je l'ai dévoré, cet ouvrage-là. Ça s'écoute super bien. C'est de Charles River, pardonnez-moi. C'est lu par Colin Fluxman. C'est en anglais, mais c'est génial. C'est la seule source que j'ai jamais trouvée sur les Hongrois. C'était très complet. Tant qu'à leur tradition, leur système politique, leur méthode de combat, leur réalité. Vraiment, c'est un ouvrage que je recommande fortement. Un autre livre audio que j'aimerais vous recommander, c'est celui de Jean Verdon, La vie quotidienne au Moyen-Âge. C'est lu par Mathieu Buscato, donc encore une fois, je viens de le mentionner, mais c'est un livre audio. Ce qui est génial avec cet ouvrage-là, c'est que c'est un bonbon. C'est un bonbon à lire, à écouter en fait. C'est extrêmement complet et ça parle d'aspects qui nous touchent En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, tu sais, quand on fait de l'histoire, là, on fait l'histoire des grands. Hein, la majorité du temps, hein, les personnages historiques, c'est les rois, c'est les généraux. C'est pas les petits paysans qui vivent leur vie normalement, puis qui essayent de survivre, puis que, bon, là, ils ont leurs défis, ils ont leurs enjeux. La vie quotidienne au Moyen-Âge, c'est justement ça que ça veut étudier. C'est qu'est-ce que ça mange, un paysan? C'est quoi son rapport à la mort? Comment fonctionne le mariage? C'est quoi la sexualité au Moyen-Âge? C'est vraiment là la vie du petit paysan. Là. C'est quoi les métiers? Comment ça fonctionnait les guildes, etc. Fait que vraiment, c'est vraiment un livre d'introduction à c'est quoi la réalité d'un paysan au Moyen-Âge. Et ce que j'aimais beaucoup avec ce livre-là, c'est qu'il donnait vraiment une emphase sur le fait de vouloir détruire les stéréotypes. T'sais, l'idée qu'au Moyen-Âge, on vivait jusqu'à 20 ans, puis que c'était la... En fait, excusez-moi l'expression, j'allais le dire, je vais le terminer, mais la merde, hein, que c'était juste infernal, puis que c'était terrible, puis qu'il y avait jamais, jamais rien de bon qui s'était passé au Moyen-Âge. Tout le monde était misérable et miséreux. Mais non, en fait, on se rend compte que même... Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est évidemment les chapitres sur la sexualité. On va en reparler, mais je garantis quelque chose, Pastoureux les Pastoureaux, ça brassait plus dans les chambres closes qu'on le pensait. Donc, c'est vraiment super intéressant, ça s'écoute super bien. J'ai vraiment, là, de mes livres audio, lui, c'est probablement mon top 3. Là. Donc, vraiment, là, un livre absolument génialissime, je le recommande fortement. Est-ce qu'il est le fun avec Audible? Bon, mais si vous avez un abonnement, je pense que c'est... Ça prend-tu Amazon? Ben ça marche avec Amazon, mais je me souviens pas si vous avez Prime, si ça fonctionne pareil ou il faut s'abonner pareil. En tout cas, avec Audible, vous pouvez toujours acheter le livre à l'unité là, ou le trouver probablement en rayon, mais j'ai adoré, c'était génial. Maintenant, Pastoureux les Pastoureaux, on arrive dans un autre chapitre de cet épisode. Je vais vous faire des recommandations de lecture sur, évidemment, un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui sont les Vikings. Donc, Pastoureux les Pastoureaux, pour commencer ce chapitre sur les Vikings, la première lecture que je vous recommande, si vous voulez, comme moi, vous intéresser aux Vikings, c'est de regarder sur le livre s'il est marqué Régis Boyer. S'il est marqué Régis Boyer, vous prenez le livre. À faire sa part, je vais vous recommander l'ouvrage, tout simplement, Les Vikings de Régis Boyer. C'est un ouvrage d'introduction phénoménal qui vraiment démolit tous les stéréotypes qu'on a sur ces gros barbares, entre guillemets, là, assoiffés de sang, qui faisaient juste se battre, et qui nous ramène dans leur réalité, hein, qui nous amène vraiment à découvrir, justement, c'est quoi ce phénomène-là? D'où est-ce que c'est parti, ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont, justement, pris les côtes d'Europe d'assaut? Est-ce que c'est déjà présent avant? Comment leur société, pardonnez-moi, fonctionnait? Comment leur religion fonctionnait? Vraiment, là, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, je l'ai dit dans cet épisode-là encore une fois, mais Régis Boyer était, parce qu'il est décédé, le plus grand expert sur les Vikings, parce que ce dernier, non seulement était un historien, mais il comprenait le vieux norrois. Il était capable de lire les sources directement, j'ai le terme en québécois, à frette, donc sans traduction. Il a fait d'ailleurs plusieurs traductions également. Régis Boyer, c'est vraiment... c'est avec lui que j'ai commencé les Vikings. C'est la plus grosse référence. Donc, et c'est en français. Donc, réellement, si vous voulez vous intéresser aux Vikings, c'est pas compliqué. N'importe quel ouvrage qui est marqué Régis Boyer, vous le prenez. C'est vraiment la référence. Je vais vous donner une autre référence. Ça, c'est si vous comprenez l'anglais. Et ce qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'il est sur YouTube. C'est le Dr. Jackson Crawford. À mon avis personnel, le docteur Jackson Crawford est le relais, le roi est mort, vive le roi de l'histoire viking. C'est celui qui a repris le flambeau de Régis Boyer. À mon avis, c'est le plus grand expert qu'il n'y a pas dans le monde scandinave présentement. Premièrement, il enseignait à l'Université du Colorado, je pense, la littérature norroise. Mais ce qui est encore vraiment hyper intéressant, c'est qu'il fait lui aussi ses propres traductions des sagas. D'ailleurs, la poétique Edda est disponible sur Audible. Si vous vous abonnez, vous achetez un de ses livres, il vous donne même un cours sur les Vikings puis leur réalité qui va être disponible également en audio sur Audible. Donc, c'est vraiment génialissime. Sur YouTube, vous avez plein de contenus auxquels vous avez accès gratuitement. Autant sur la vie des Vikings, sur les runes, sur plein d'aspects, c'est génialissime. Je le cite dans à peu près tous mes épisodes sur les Vikings. Il y a tout le temps une vidéo en référence, je le mentionne tout le temps de nom. Et vraiment, là, c'est un expert incroyable. Je l'écoute religieusement, vraiment. C'est quelqu'un d'incroyable. Et une partie de son contenu est disponible sur YouTube. Il y a également la possibilité de le suivre sur Patreon, donc d'avoir accès à du contenu supplémentaire, des cours personnalisés. Donc, si vous voulez pousser votre étude sur les Vikings encore plus loin, il y a cette possibilité. Donc, c'est vraiment mes deux piliers, si vous voyez, sur le monde viking. Régis Boyer en français, Jackson Crawford, lui, il parle anglais, est américain. Donc, deux auteurs, absolument génial, deux professionnels sur le monde viking, des incontournables. Et vraiment, je vous recommande d'aller chercher dans ces deux optiques-là pour vous perfectionner sur les Vikings. Mais on continue parce que j'ai beaucoup de livres sur les Vikings. Donc, le prochain que je veux vous mentionner, c'est attendez une minute, je le vois pas. Oui, pardonnez-moi. Au temps des Vikings de Ender Winroth. C'est un livre que j'ai adoré. Moi, je l'avais papier, mais je l'ai trouvé aussi sur Audible. Fait que j'ai lu une partie papier, puis je l'ai terminé sur Audible. Sur Audible, c'est lu par Jan Sundberg. Mais cet ouvrage-là, Le Pastoral et Pastoraux, là, absolument génial. Premièrement, je l'ai mentionné quand j'avais fait un post Instagram, justement, pour mentionner, recommander l'ouvrage. Je l'ai déjà recommandé, celle-là, comme les Magyars, d'ailleurs. Mais ce que lui, j'avais trouvé intéressant, c'est que sa théorie à lui, c'est que le mouvement viking est parti de l'idée des maisons hall, puis de justement renflouer les coffres, s'entourer de guerriers prestigieux, puis que tout tournait autour des maisons hall. Que c'était l'objectif, là, on partait en guerre pour justement ramener le butin, qu'on faisait gros banquets dans la maison hall. Donc c'était un symbole de pouvoir, la maison hall, et que la réalité que les vikings, la réalité que les Vikings ont fait découvrir à l'Europe, qu'ils ont découvert de façon très sanglante, mais quand même, dans le fond, que le mouvement viking part tout de ce simple fait de la maison Hall. Et comme j'avais mentionné dans le post Instagram, je suis pas d'accord avec cette idée-là, même si c'est une hypothèse excessivement intéressante. Je penche plus sur l'idée du fait que c'était foutrement facile, comme Régis Boyer, entre autres, là, que c'était un mouvement, justement, c'était facile, l'or était là, les monastères n'étaient pas protégés, puis la raison pourquoi les gens partaient en raid, c'est que c'était justement très facile, que justement, il y avait des terres à aller chercher, donc des désirs de conquête, mais quand même, hein, ça se rentrecoupe avec les halls, mais ouais, c'est ça, les maisons halls, donc les grandes maisons chefs, avec justement ses guerriers, ses grands banquets. Ça devait en faire partie. En tout cas, c'est super intéressant. Et même si je partage pas nécessairement sa théorie que c'est exclusivement à cause de ça, l'ouvrage est génial. Et ce que j'ai vraiment aimé de cet ouvrage, c'est qu'il donne une grosse attention aux runes quand même. Et c'est assez rare. Vraiment, dans les ouvrages vikings, les runes sont souvent mises de côté. Il y a vraiment Jackson Crawford qui, lui, que j'ai mentionné là, tout à l'heure, lui s'intéresse beaucoup aux runes. Régis Boyer aussi, mais Jackson Crawford beaucoup plus. Et ça fait du bien. Parce que moi, les runes, je trouve ça, hyper intéressant. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'ouvrages qui nous en parlent. Donc, l'ouvrage Ender Winroth, ça vous donne au temps des Vikings, on parle des navires, on parle encore une fois de leur société, de comment ils fonctionnaient. C'est un bon livre pour commencer aussi, je vous dirais. Au niveau introduction, c'est assez direct, c'est assez clair. Vous n'avez pas besoin d'avoir une si grosse connaissance sur les Vikings avant. Justement aussi, il va détruire beaucoup de stéréotypes. Donc, un ouvrage que j'ai bien apprécié, surtout pour la navigation. Les aspects de navigation, faire les navires, c'est quelque chose qui est beaucoup abordé dans cet ouvrage et qui nous met justement en perspective le temps que ça prenait. Donc, honnêtement, là, un ouvrage incontournable, je l'ai vraiment aimé, même si je suis pas nécessairement d'accord avec la prémisse de l'auteur. Maintenant, un autre ouvrage sur les Vikings que j'ai vraiment adoré, c'est The Viking War. The Viking War, War and Peace in King Alfred Britain's, de 789 à 955, par Max Adam. Ça, c'est un livre génial pour comprendre les invasions scandinaves dans le monde anglo-saxon. C'est un ouvrage en anglais. Ça, je vous recommande, par contre, d'avoir déjà des bases. Parce qu'on va vraiment dans des détails très spécifiques. C'est sûr qu'une introduction, on détruit quelques stéréotypes. Mais là, ça fait un moment, je l'ai lu, là, mais de mémoire, là, je le refeuille encore. Là, c'était plus direct, là. On arrivait... Parce que vu qu'on le voit sous la loupe des îles britanniques, ce qui arrive, c'est que bon, la zone géographique qui est étudiée est plus petite, donc plus précise. Donc, ça serait peut-être intéressant, avant des ouvrages-là, d'avoir une idée plus générale, parce qu'on l'a vu dans les épisodes, mais les Vikings sont pas juste allés en Angleterre, hein. Ils sont allés en France, ils sont allés au Groenland, ils ont réussi à se rendre jusqu'à Bagdad, tu sais, le phénomène scandinave dans l'expansion, le phénomène viking de l'expansion scandinave, pardonnez-moi, est un phénomène très complexe. Donc, un livre hyper intéressant si vous vous intéressez justement à ce qui s'est passé dans le monde anglo-saxon. Mais je vous recommande quand même, avant de peut-être avoir lu quelques ouvrages sur les Vikings, juste au moins avoir une petite base et vous devriez être 100% correct. Je me souviens pas si je l'ai dit, mais cet ouvrage-là est en anglais. De toute façon, le titre est en anglais. Ce que j'aimais beaucoup aussi avec cet ouvrage-là, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, c'est tout le temps plaisant quand dans des ouvrages comme ça, on a des cartes, puis que, surtout que, tu sais, les Vikings se sont beaucoup promenés. Des fois, ça devient dur de savoir, bon, ils étaient rendus où, ok, quel lieu stratégique ils ont pris, de le voir se matérialiser sur une carte, c'est toujours pratique. Donc, un ouvrage que je me suis servi justement dans mon cours sur les Vikings, j'ai vraiment apprécié l'avoir. Maintenant, mes chers amis, un ouvrage que j'adore, coup de cœur, que j'ai entamé, j'ai malheureusement pas encore eu le temps de finir, ça c'est la réalité quand t'as trop de livres, c'est que t'en as plein que tu commences, puis il y en a très peu que tu finis, mais je peux vous dire déjà à date que c'est un ouvrage à ne pas manquer, c'est un ouvrage que j'ai déjà cité, que j'ai lu certains chapitres, que je me suis servi justement dans plusieurs de mes cours, c'est « Les femmes vikings, des femmes puissantes » de Johanna Catherine Friis-Dottir. Donc, elle, c'est vraiment là, c'est un ouvrage qui vous explique la place des femmes dans le monde viking. Et ça, c'est un coup de poing dans tous les stéréotypes que vous avez sur les femmes en histoire, mais sur les femmes chez les vikings. Vraiment, elle les replace dans leur contexte, elle s'appuie sur des runes, en fait sur des inscriptions runiques retrouvées, sur des sagas, sur des aspects archéologiques. Vraiment, on retrace l'histoire des femmes et on se rend compte que finalement, à travers la littérature, les femmes fortes, les femmes courageuses, les femmes qui vont se battre ne sont pas portrayées justement comme malsaines. Au contraire, ces femmes qui ont le comportement de Drengir, c'est des femmes qui sont considérées comme ayant plus de valeur. D'ailleurs, on en avait parlé, je me souviens plus dans quel épisode de cet aspect-là, mais je pense que c'était l'épisode sur la femme viking qui avait été trouvée en Suède. Je me souviens pas du titre de l'épisode, celle que nous avons trop longtemps oubliée, je pense. Je m'étais servi de cet ouvrage-là. Si ma mémoire est bonne, c'est dans lui. Donc, c'est génial. Pour vous présenter un peu ce personnage, là, Johanna Catherine Friis-Dottir, c'est une chercheuse islandaise, en fait, qui est docteur en littérature médiévale, spécialiste de textes des civilisations nordiques et toutes questions du genre. Donc, c'est génial. Traduit en passant de l'islandais à l'anglais par Laurent Catagrel. Donc, on apprécie énormément son travail parce que j'aimerais vraiment ça, un jour, être capable de lire l'islandais. Mais ça traîne. Ça traîne, oh mon Dieu, que ça traîne. Et il y a d'autres... vraiment, là, c'est un ouvrage, en fait, qui s'intéresse, tu sais, à la perspective des femmes. Vraiment, là, j'ai tout le temps qu'en histoire, on parle pas assez des femmes. Mais cet ouvrage-là, on parle que de ça. On s'intéresse à la réalité des femmes, on les remet en contexte et on détruit les stéréotypes qui leur sont trop souvent associés. C'est absolument génialissime. Maintenant, un autre ouvrage sur les Vikings. Ça, c'est un cadeau que mon frère a fait. Dans un premier temps, là, on peut pas voir le livre, mais il m'a acheté ça quand il est allé en Norvège, parce que mon frère, lui, il s'en va en Norvège, puis là, il s'en va en Suède. Puis moi, je suis ici à travailler pendant que c'est lui qui va voir les Vikings. Mais en tout cas, bon, ma jalousie va arrêter maintenant. Donc, il m'a acheté ce magnifique cadeau en Norvège chez A Tale of Norse Mythology. C'est un livre absolument incroyable de Ellen A. Gruber. C'est-tu Gruber? Gerber, mon Dieu, hey. J'espère que les auteurs viendront jamais écouter ce podcast-là, ils vont m'arracher à la tête. C'est un magnifique livre, honnêtement, c'est un livre d'introduction aux divinités par la mythologie nordique. C'est super bien fait, il y a des images, mais c'est surtout, je vous le recommande, je vais être honnête, là, les fans de livres vont me comprendre, mais le livre est magnifique. C'est absolument incroyable. Et ce que j'aime, c'est qu'il cite les passages... en fait, on a une description des dieux, puis souvent c'est ça qui arrive dans les livres de mythologie nordique. On a une description des dieux, puis souvent c'est tout. Bon, le dieu Odin est un dieu fourbe, avare de connaissances, guerrier, Freya est une déesse impulsive, forte, magicienne, puissante, ben voilà. Mais dans ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous présente un dieu puis il vous donne des extraits de certaines sagas en les citant. Donc, ça vous donne non seulement la mise en contexte de où est-ce, en fait, de comment est-ce qu'on sait que ce dieu-là avait ces comportements-là, d'où on tire cette source, et ça vous donne la saga. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller lire la saga et justement en apprendre davantage sur les Vikings. Ben, en fait, pardonnez-moi, sur la mythologie nordique. Donc, un livre, il y en a plein, là, des livres de mythologie nordique qui sont bons, mais celui-là, là, juste pour la magnificence de ce livre-là, il est magnifique, avec un revêtement doré, là, et c'est génial. Vraiment, là, c'est un livre qui est très clair, des belles images, comme je le mentionnais. On cite les sagas, et aussi, c'est des on a des fois des histoires de relations, non seulement, en fait, excusez-moi, on n'a pas juste des histoires des dieux individuellement. Parfois, on a des petites histoires qui mettent les dieux en relation et ça explique un peu la dynamique de la mythologie nordique et pourquoi c'est hyper compliqué et en même temps tellement, tellement intéressant. Maintenant, sur les pastoraux, j'ai d'autres livres sur les Vikings, bien évidemment, et sur le Moyen-Âge, mais je ne les ai pas encore entamés assez sérieusement pour simplement vous donner un avis. C'est des nouveaux livres qu'on m'a donnés ou que j'ai achetés, donc ça va me faire plaisir de vous en parler quand je vais avoir une opinion sur ces derniers. En attendant, Pastourelles et Pastoureaux, je vous souhaite une excellente, en fait, une excellente deux semaines et deux semaines à venir. J'espère qu'ils seront remplis de richesses, de raids fructueux et de bonheur. Mes chers amis, on se voit dans deux semaines. Préparez-vous par contre, parce que là, bon, février, il y a beaucoup de travail, mais parce qu'en mars, ça va bouger. J'ai très très hâte de faire quelques annoncements. Je travaillais sur des collaborations, je vous l'avais mentionné. Donc, j'ai très très hâte. Il y a une nouveauté aussi qui s'en vient à Admedievum, à Eternum. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, mes chers amis. Et si jamais vous avez d'autres recommandations, gênez-vous pas. Ça me fait vraiment plaisir de faire un petit épisode spécial pour une demande particulière. C'est des sujets que vous voulez que j'approfondisse davantage. Ça va vous faire plaisir, ça me donne des pistes de recherche, fait que c'est super génial pour moi, puis ça me permet d'en découvrir davantage. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, comme je viens de vous dire, et mes chers amis, n'oubliez surtout pas, le Moyen-Âge est mort. Vive le Moyen-Âge. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.